get distracted. Don't get misled. I said, look how far we go.
Look how far we have to go.
So many seeds.
Water them and they will grow.
Even when
sugar lies in
Radio G. 101.5 FM.
Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
La radio qui fait le point. 101.5 FM. J'ai dit quoi? 101.5?
Là!
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
The beginning is near. Now watch men disappear.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous parler du film de Rian Johnson, À couteau tiré. Fan des films tirés des romans d'Agatha Christie, Rian Johnson raconte à Télérama comment il s'en est inspiré pour réaliser son palpitant film À couteau tiré. Après Star Wars, épisode 8, Les derniers Jedi, l'américain Rian Johnson a tourné un film Cluedo qui joue malicieusement avec les codes du thriller. Agatha Christie. J'ai toujours adoré les adaptations des romans d'Agatha Christie, en particulier celle où Peter Ustinov joue Hercule Poirot, mort sur le Nil, meurtre au soleil, etc. Ses intrigues étaient toujours pimentées d'ironie, avec un casting de stars éblouissants. Bette Davis, David Niven, Jane Birkin. À chaque apparition, vous vous disiez « Oh mon Dieu, il est là lui aussi !» Dans Un couteau tiré, j'ai cherché à retrouver cet équilibre entre l'humour et la mécanique, porté par une belle distribution de Tony Collette à Jamie Lee Curtis ou Don Johnson. Le contexte politique. Dans ses livres, Agatha Christie rend compte de la société britannique de son temps. Elle présentait toujours une palette de héros, du haut au bas de l'échelle. Le genre de l'enquête criminelle est très structuré. Il permet bien de décrire un système, une confrontation entre classes sociales. Gosford Park de Robert Altman le fait par exemple brillamment. Je voulais la même chose pour mon film, l'imprégner de son époque, créer des types de personnages, un échantillon de la société américaine qui ne peuvent exister qu'en 2019, et évoquer les sujets de débat d'aujourd'hui. Daniel Craig et Chris Evans. Je voulais avant tout qu'ils prennent le maximum de plaisir, qu'ils me surprennent devant la caméra, et peut-être qu'ils se surprennent un peu eux-mêmes. Chris Evans a adoré jouer ce personnage de sale type, bien loin de Captain America. Quant à Daniel Craig, j'ai senti qu'il avait envie de s'affranchir de James Bond, de s'offrir une récréation. Les films de genre. Les contraintes et les règles du film de genre sont stimulantes. C'est un échiquier sur lequel vous pouvez jouer la partie que vous voulez. C'est aussi une grammaire partagée avec le public, une connivence. Comme si tout au long du film, vous aviez une sorte de conversation parallèle et souterraine avec les spectateurs. L'idée, pour À couteau tiré, était de ne pas créer un simple jeu de devinettes. Il fallait y ajouter la force motrice du suspense, de l'empathie, pousser le spectateur à s'inquiéter pour les personnages, autant voire plus, qu'à se creuser les méninges pour résoudre l'énigme. Je voulais que le plaisir soit dans le voyage, pas dans la hâte d'arriver à destination. Voilà, je vous conseille de voir ou de revoir À couteau tiré de Rian Johnson, un film dans lequel Chris Evans, par exemple, la star de Captain America, s'en donne à cœur joie pour asseoir un anti-héros bien antipathique. Et si vous aimez les films tirés des romans d'Agatha Christie, vous allez trouver celui-ci palpitant.
Come on. terrorist threat.
Bonsoir à toutes et à tous, ce soir je vais vous parler de la série britannique Utopia. Alors quelle est son histoire ? Diffusée outre-Manche entre 2013 et 2014, la série du dramaturge Dennis Kelly se concentre sur la fuite chaotique de ses jeunes héros. C'est un conte horrifique, étrange, labyrinthique, à la violence absurde mais crue, où le réalisme n'a presque pas sa place. En sous-texte, une réflexion ambiguë sur la surpopulation de notre planète. Les personnages. La bande de geeks candides et paumés au cœur de la série n'a rien d'un groupe de héros. Becky et Yann sont des solitaires anxieux. Wilson, un paranoïaque maladif, et Grant, un délinquant de 11 ans. Leur chaperon, Jessica Hyde, est une Alice au pays des merveilles, lunaire, torturée, mais qui se révèle bienveillante. L'esthétique. Pour coller à l'élément déclencheur de l'intrigue, une BD baroque, capable de prédire les grandes épidémies à venir, le réalisateur Mark Munden imagine un monde aux couleurs saturées, aux cadres étonnants, et crée une hallucination en forme de cauchemar réveillé. Les bidouillages électroniques oppressants du fantasque compositeur Cristobal Tapia de Verre finissent de nous emporter. Utopia version originale, saison 1 et saison 2 sur MyCanal. Mais cette série a eu tellement de succès qu'une version américaine est apparue il y a quelques temps. La romancière Gillian Flynn respecte le point de départ de son modèle, mais en tire une intrigue plus réaliste, où il est davantage question du virus annoncé par la BD et de la puissante entreprise pharmaceutique qui semble être responsable de sa propagation. Malgré la dramatisation, le résultat ressemble à notre quotidien en temps de Covid. Ici, Becky, Yann, Wilson et Grant sont plus jeunes encore que dans la version anglaise, des gosses, symboles d'une génération convaincue d'être la dernière avant la fin du monde, des figures héroïques maladroites mais clairvoyantes sur l'état du monde. Jessica Hyde, elle, devient une survivante dépenaillée et brutale, capable de tuer sans sourciller. En manque d'inspiration visuelle, l'utopia américain est plus terne, plus classique malgré quelques séquences originales. La musique de Jeff Russo n'a pas, elle non plus, le pouvoir hypnotisant de la version britannique. David Fincher, à l'origine du projet de remake, aurait sans doute livré une œuvre plus surprenante. Utopia version américaine, la saison 1, sur Prime Video. Bien sûr, personnellement, je ne peux que vous conseiller la version originale anglaise sur les fans d'une BD prémonitoire qui sont embarqués dans un complot visant à la propagation d'un virus mortel. Un fascinant thriller conspirationniste britannique.
Voyons les choses positivement. C'est donc l'heure de se mettre de nouveau sous la couette, tout le week-end, avec un bon vieux plaid et une bonne tasse de thé, et de se plonger dans un bon livre. Vous n'avez pas d'idée de lecture ? Ne vous inquiétez pas, je vais vous partager ce soir mes derniers coups de cœur. nous allons avoir un roman d'anticipation et un manga, aussi de science-fiction, mais qui vous plongera dans un tout autre univers. Alors, c'est parti, on commence tout de suite avec Cogito, un thriller d'anticipation écrit par Victor Dixen et publié chez Robert Laffont dans la collection R en 2019. Alors tout d'abord, je vous propose de nous arrêter 2 minutes sur son auteur, Victor Dixen. Cet écrivain français, adepte de la science-fiction, du fantastique et de la fantasy historique, est l'auteur de plusieurs séries littéraires pour la jeunesse, dont Phobos, Animal et le cas Jack Spark. Les 4 romans que constitue Phobos, parus entre 2015 et 2017, ont reçu un accueil très positif de la critique. Et certains comparent cette série à la célèbre trilogie Hunger Games. Pour ma part, je découvre cet écrivain avec Cogito. Ce dernier, conseillé par mon frère, que j'en profite pour saluer, a reçu le prix Imaginal des lycéens cette année. Alors de quoi parle Cogito ? On suit Roxane, 18 ans, jeune fille qui a plongé dans la délinquance quand ses parents ont perdu leur emploi, remplacés par des robots. Pour sortir de cette situation, sa dernière chance est de décrocher le brevet d'accès aux corporations. Et oui, on parle finalement toujours du bac, malgré les 20 ou 30 ans qui semblent nous éloigner de cette histoire. Ce bac est tout bonnement un stage de programmation neuronale, une technologie promettant de transformer n'importe qui en génie. Roxane s'envole donc pour les îles Fortunées, un archipel tropical futuriste entièrement dédié au cyberbachotage. Mais cette méthode expérimentale, qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la substance même de l'esprit, est-elle vraiment sûre ? Roxane, en offrant son cerveau à la science, a-t-elle vendu son âme au diable ? Voici donc un bon roman d'anticipation sur notre société. Victor Dixen se penche ici sur les dangers de la technologie, de la robotisation et des intelligences artificielles vers lesquelles on se dirige progressivement. C'est riche et addictif, tant pour de grands ados que pour de jeunes adultes. C'est assez bien documenté, des questions scientifiques parfois complexes sont ainsi vulgarisées et les connaissances y sont assez poussées. Notre société est questionnée de manière habile. On peut également souligner que pour les jeunes qui souhaitent découvrir des films de science-fiction cultes, Dixen propose de nombreuses références et c'est très appréciable. J'ai un peu moins aimé la deuxième partie de cette dystopie qui tombe dans les clichés des films d'action et zombies, mais les amateurs du genre se régaleront. L'auteur a annoncé en novembre 2019 la possible adaptation de son roman en série télé. Affaire donc à suivre. Sorti au Japon en 2016 et en France en 2019, Astra, Lost in Space de Kenta Shinohara. Cela faisait longtemps que je n'avais pas mis les nez dans un manga, car je me décourage souvent à la vue du nombre de tomes. Ce manga d'aventure et d'amitié, qui se déroule dans l'espace, est constitué de 5 volumes uniquement, ce qui m'a décidé. Alors de quoi ça parle ? En 2063, Kanata, Ariès, ainsi que 7 autres de leurs camarades, débarquent sur une planète inconnue, dans le cadre d'une mission spatiale de leur cursus scolaire. Mais celle-ci ne va pas se passer normalement. À peine ont-ils eu le temps de commencer à explorer ce nouvel univers qu'ils sont projetés à des années-lumière de leur point de départ, par une étrange sphère lumineuse. Comment survivre au beau milieu de l'espace? Quelle est donc cette sphère étrange qui continue de les poursuivre? Lost in Space propose un pitch qui n'est pas sans rappeler Perdu dans l'espace, cette série des années 60, adaptée en film en 98 et qui a été réadaptée une nouvelle fois en série récemment par Netflix. Cela a sans doute inspiré les éditions Nobby Nobby. Développant cependant son propre univers, le manga laisse aller son imagination pour développer une patte SF prenante et des planètes qui imposeront chacune à leur tour des reliefs variés et des difficultés qui ne seront jamais les mêmes d'une destination à l'autre. Titre après titre, les aventures s'enchaînent et se renouvellent sans cesse. L'équilibre entre les phases purement spatiales et les péripéties sur les planètes qui s'avèrent plus ou moins hostiles est assez bien réalisé. En résumé, les points forts de la série sont nombreux. Captivante et ultra rythmée, elle fait monter l'adrénaline du lecteur à chaque page. L'intrigue gagne en profondeur. Le suspense haletant perdure au fil des tomes. Le scénario élaboré par Kenta Shinohara, dès le départ pour 5 tomes, servent chacun des 9 personnages principaux qui ont tous leur caractère et leur identité propre, ce qui rend cette série encore plus originale. Ils doivent se serrer les coudes et trouver des trésors d'imagination pour se sortir des situations les plus difficiles, délivrant ainsi un beau message d'amitié, de courage et d'entraide.
Qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace infini, qui devant nous dévoile ses comètes, ses planètes, ses étoiles et le ciel, tel un rêve éternel où le temps même s'efface.
Les deux titres de ce soir, Cogito de Victor Dixen, publié chez Robert Laffont, et Astra Lost in Space de Kenta Shinohara, édité en France par Nobby Nobby, en 5 volumes. Bonne lecture à vous tous, à très bientôt dans Bande Geek Mafia, sur les ondes de Radio G 101.5. La radio qui fait le point.
Quand tu donnes dans ton panier du fromage, quand tu donnes dans ton panier du fromage de chez Morel.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous parler de trois bandes dessinées. Et tout d'abord, Le Château de mon père, Versailles ressuscité, de Maïté Labat, Jean-Baptiste Weber, Stéphane Lemardelet et Alexis Vitrebert. Comment imaginer que, voici moins de 150 ans, le château de Versailles était presque tombé dans l'oubli? Lorsque Pierre de Nolhac s'y installe en 1887 avec femme et enfants, il s'aperçoit bien vite que le palais du Roi Soleil n'intéresse plus grand monde en ces temps républicains. Il faudra au jeune attaché devenu conservateur du château toute son énergie et sa détermination pour redonner au lieu ses lettres de noblesse. Mais à quel prix ? Henri de Nolhac, le fils de Pierre, nous conte sa vie de famille et de château, un récit mêlant joie et drame, petite et grande histoire. Le château de mon père, Versailles ressuscité, aux éditions La boîte à bulles, château de Versailles, par Labat, Weber, Lemardelet et Vitrebert, c'est un très beau cadeau de Noël. Deuxième bande dessinée ce soir, Le souffle des femmes, de Manguin et Beck. Ici, nous sommes au Japon, à la fin des années 60. Nagisa, jeune citadine timide, venue de Tokyo, débarque sur Egura, une île minuscule perdue dans la mer du Japon. Que vient-elle faire là? Nul ne le sait. Mais si elle veut rester, elle devra se faire sa place parmi les Hama, ces femmes qui plongent nues à la recherche des précieux ormeaux et possèdent un statut à part. Chef de famille, libre et forte, n'obéissant à aucune autre loi qu'à celle de leur clan. Donc Hama, le souffle des femmes, c'est une très belle BD de Manguin et Beck, aux éditions Sarbacane, encore un très joli cadeau de Noël. Enfin une troisième BD ce soir, Aldo Brando, de Critone et J.P. aux éditions Casterman. Alors là on est au Moyen-Âge, et si vous aimez l'héroïque fantasy, vous n'allez pas être déçu. Car il suffit parfois de la vaillance d'un cœur pur pour renverser la tyrannie. Je vous lis un petit extrait. Laisse tomber l'épée. Tu as tes deux bras, ces pattes de merle. Tu te souviens de ce que je t'ai enseigné. Ta seule fortune est d'avoir un maître. Alors cours. Cours, Aldo Brando. Trouve l'herbe du loup. Quitte la maison. Cours le monde, comme c'est écrit dans le grand manuel. Aldo Brando de Critone et J.P. aux éditions Casterman, si vous aimez le Moyen-Âge, l'héroïque fantasy et l'aventure. Je récapitule les trois bandes dessinées pour ce soir. Le château de mon père, Versailles ressuscité, Hama, le souffle des femmes et Aldo Brando.
Radio G. 101.5 FM.
starte aftenen med lidt champagne? Det lyder dejligt.
Jeg skal bare have en dansk mand uden citrus.
Uden citrus, ja tak.
Ja.
Det er godt, det her.
Ja, det er sgu synd, du er så fornuftig.
Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuft? Der findes en norsk filosof. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt.
Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtid.
Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for.
Jeg synes, det er spændende.
Det gør jeg også.
Så det er det, vi gør.
Yo les bons geeks. Aujourd'hui, je vais vous parler de Drunk, de Thomas Vinterberg, 2020. Gros coup de cœur, à la base, pour ce cinéaste danois. Déjà dans Festen, en 1998, mais aussi dans La Chasse, de 2012. Et aujourd'hui dans Drunk, 2020. Je résume un peu le synopsis. Quatre amis, professeurs dans un lycée, quinquagénaires, un peu dépassés, décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien, selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang. Avec une rigueur prétendue scientifique, ils relèvent ensemble le défi, en vie privée et ou en vie professionnelle, en espérant tous que leur vie n'en sera que meilleure. Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle. Drunk, qui veut dire saoul, ivre. En fait, c'est une théorie selon laquelle l'humain serait plus performant avec 0,5 g d'alcool dans le sang. Forcément, ils vont l'essayer. C'est-à-dire l'expérimenter de façon très scientifique ou prétendument telle. Le problème, vous vous en doutez bien, est qu'ils vont la pousser un peu plus loin, puis encore un peu plus loin. Comme une forme de démonstration par l'absurde. Lorsque l'on pousse une théorie ou une hypothèse à son extrême pour voir jusqu'où elle tient, pour invalider son sens ou démontrer alors que son contraire est vrai. Comme dans le film La Chasse en 2012, Drunk met en scène la complicité entre le réalisateur Thomas Vinterberg et l'acteur Mads Mikkelsen. Comme souvent, ce dernier crève l'écran. Rappelez-vous, on l'avait déjà vu dans le rôle du chiffre dans Casino Royale, le premier volet des nouveaux James Bond avec Daniel Craig. Dans le rôle d'Hannibal Lecter dans la série éponyme, ou encore dans le rôle de Casey Luce dans Doctor Strange. Et il est pressenti pour remplacer Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques, prévu en 2022. Il est excellent dans les rôles de méchant ou de monstre froid. Ici, il revient dans un style plus réaliste où il interprète Martin, quinquagénaire, professeur d'histoire, en dépression et en pleine perte de sens. Il interprète avec brio la fragilité, la simplicité, mais aussi le grain de folie qui va le réveiller, lui et ses amis. Simple crise de la cinquantaine, les quatre amis traversent une profonde crise existentielle qui affecte leur vie familiale et amoureuse, leur vie professionnelle et leur relation aux élèves. Entre parenthèses, ça fait presque plaisir de voir que les Danois aussi galèrent à intéresser leurs élèves en cours et affectent tout court leur goût de vivre. En fait, ils n'arrivent plus à vivre le présent, encore moins à profiter de l'instant présent. Ce présent qui leur paraît faux et factice. À ce propos, le philosophe contemporain Clément Rossé écrit, dans la conclusion de son livre L'Antinature, deux points, ouvrez les guillemets. Le refus de la facticité n'est autre qu'un refus du présent, car le factice, avant d'être le faux, est simplement quelque chose à quoi il est reproché de survenir dans le temps, de ne figurer qu'un pur et simple événement. Factice, terme utilisé pour déprécier le présent en tant qu'artificiel, ne renvoie pas en effet à l'idée de fausseté, falsum, mais à celle de fait, factum. Ce qui est refusé n'est pas d'abord la fausseté de l'existence, mais son caractère factuel. Le film rappelle combien nous vivons dans une société et une culture de l'alcool en Occident. Combien l'alcool est cette drogue légale qui nous désinhibe et nous défoule, mais nous endort aussi en nous anesthésiant, et donc nous empêche de penser et nous rend obéissants et dociles face au système. Cependant, et avec le philosophe Nietzsche, j'invoque ici le dieu Dionysos pour éclairer le film. Il nous rappelle que l'ivresse est profonde, car elle plonge ses racines au cœur du mal de vivre, au cœur de la souffrance de l'existence, du tragique de la vie, qu'elle nous permet d'aller chercher en nous des vérités enfouies, mais qu'elle est aussi légère, et qu'elle a cette vertu de nous embellir les uns les autres le temps d'une fête. L'ivresse nous élève aussi et nous rappelle que la vie peut être abordée avec légèreté et insouciance, avec simplicité et spontanéité. Merci de votre écoute. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, 'cause I'm popping pills right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? Got some money, but ain't got no plans. It's making me paranoid to float like an asteroid. How long before I go insane? Don't really have a clue. Nothing I need to do. I got some money, but ain't got no plans. It's making me paranoid to float like an asteroid. How long before I go insane? Saying what a life. Yeah, yeah. It's okay.
Pieces of mine. Do I see the design today's love.
Quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer.
Pardon ?
Quoi, nous avons affaire à un serial killer.
Un quoi ?
Un serial killer.
Hein ?
Un serial killer, tueur en série.
Ah, serial killer.
Les amis, aujourd'hui je vous présente un coup de cœur, un très beau polar en fait, très sombre aussi également, de Morgan Odick, un jeune auteur rennais, un polar qui s'appelle De bonnes raisons de mourir. Morgan Odick, il a gagné le prix des lecteurs de la sélection 2020. Morgan Odick, De bonnes raisons de mourir, au livre de poche et précédemment chez Albin Michel en 2019. Je vous lis le résumé de la quatrième couverture. À Pripyat, ancienne ville soviétique confinée dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, un cadavre atrocement mutilé est retrouvé, suspendu à la façade d'un bâtiment. Deux hommes aux motivations divergentes, Joseph Melnik, policier ukrainien animé par le sens de la justice et du devoir, et Alexandre Rybalko, flic russe recruté par le père de la victime, mènent chacun leur enquête. Alors que tout relie le crime à un double homicide perpétré en 1986, la nuit où la centrale a explosé, ils doivent affronter un tueur fou qui signe ses meurtres d'une hirondelle empaillée. Morgan Odick livre un trailer époustouflant dans une Ukraine disloquée où se mêlent conflits armés, affrontements économiques et revendications écologiques. Ce livre a gagné le prix des lecteurs, la sélection 2020. Je répète le titre. Donc Morgan Odick, De bonnes raisons de mourir. Quelques mots sur l'auteur. Morgan Odick est né en 1980 à Saint-Malo. Morgane Audic a grandi à Cancale, enseignant d'histoire et de géographie dans un lycée de Rennes depuis plus de 10 ans. Il est l'auteur de Trop de morts au pays des merveilles et donc de ce roman De bonnes raisons de mourir. Je vous lis un passage quand l'enquêteur russe Rybalko retourne à Pripyat sur les lieux du crime avec une jeune militante écologiste. Il n'avait pas reconnu son quartier, le district numéro 1, à cause des arbres qui avaient poussé de manière anarchique et des carcasses de bus garées sur le bas-côté. Les Icarus hongrois qui avaient servi à l'évacuation de la ville. Pourtant, c'était bien là qu'il avait vécu, enfant, au troisième étage de l'immeuble numéro 28. À moins de 300 mètres derrière, il y avait l'école numéro 3, Solinichko, Petit Soleil, où il allait gamin. L'espace d'un instant, il songea à demander à Ninel de stopper la voiture le long du trottoir pour qu'il puisse revoir l'appartement de son enfance. Puis, une boule se forma dans son estomac à l'idée de retrouver l'endroit saccagé. Retourner là-bas gâcherait les souvenirs des jours heureux où ses parents étaient jeunes et vigoureux avant que la centrale ne détruise leur vie. Mieux valait ne pas s'arrêter. Ninel tourna son regard bleu vers lui. « Je ne savais pas que vous aviez vécu ici, s'étonna-t-elle. » Mon père était pompier. Il était de service le soir de l'accident. Le visage de la jeune femme sembla se détendre légèrement. « C'est grâce à des gens comme votre père que la catastrophe a été contenue. On ne serait pas là s'il ne s'était pas sacrifié pour nous. » C'était la vérité, mais qui le savait? Avec amertume, il se dit que le monde se souvenait de dictateurs, de joueurs de foot brésiliens et d'artistes peignant des carrés blancs sur fond blanc, mais que personne ne pouvait donner un nom, le nom d'un seul de ces hommes qui avaient sauvé l'Europe d'un cataclysme nucléaire sans précédent. Qui connaissait Alexei Ananenko, Valery Bespalov et Boris Baranov? Qui savait qu'il s'était porté volontaire pour plonger dans le bassin inondé sous le réacteur 4 pour activer ses pompes et le vider de son eau avant que le cœur en fusion ne l'atteigne? Qui savait que si le magma d'uranium et de graphite s'était déversé dans le bassin, il se serait produit une explosion de plusieurs mégatonnes qui aurait rendu inhabitable une bonne partie de l'Europe? Qui le savait? Je vous propose une autre lecture. Une discussion entre la jeune policière Novak et le vieux briscard Melnik à propos de l'affaire et de Tchernobyl. Il y a eu un procès suite à l'explosion du réacteur. À son issue, le directeur de la centrale, son adjoint, l'ingénieur responsable du réacteur numéro 4, le chef de l'atelier réacteur et le chef de car ont été condamnés. Mais c'était une mascarade. Elle brandit une liasse de feuilles agrafées. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur le sujet. Ça, c'est un rapport officiel qui analyse les problèmes structurels des réacteurs RBMK, du même modèle que celui qui a dysfonctionné à Tchernobyl. Le cœur des RBMK est instable quand on le fait tourner à faible puissance. Il devient difficile à contrôler et le risque d'accident est démultiplié. C'est ce qui s'est passé le soir de l'explosion. Or, les autorités avaient été prévenues de ces problèmes bien avant la catastrophe. Ajoutez à cela des erreurs humaines commises par un personnel mal formé et vous avez toutes les conditions réunies pour un cataclysme nucléaire. Morgane Audic, De bonnes raisons de mourir, au livre de poche et précédemment chez Albin Michel en 2019.
She might be mad. Attends, tu vas voir, ça passe à la radio là.
I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Bande Geek Mafia, votre émission Info Culture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
Et nous continuons notre voyage. cérébral.
Radio G 101.5 FM.
Vous aimez le ska, le rocksteady, la soul et le punk? Écoutez Rudy's Back tous les mercredis de 20h à 22h sur les 101.5 de Radio G à Angers ou sur le www.radio-g.fr.